pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau, Nabassaran.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nabassaran, et soyons unis.
Nabassaran.
Bienvenue au village de l'eau. Incroyable et génial rassemblement qui s'est tenu en juillet 2024 sur la commune de Mel, dans le Poitou, et qui aura réuni jusqu'à 15 000 personnes. Un événement officiellement porté par le syndicat Sud Solidaire et par l'association Attaque, événement également assuré par la MAIF, assureur militant, comme dit leur pub, on ne dira pas le contraire. Un village de l'eau organisé sur place par Bassine Non Merci et les soulèvements de la terre. Mais avant d'évoquer ce qui s'est passé pendant cette semaine historique, qui pourrait rappeler d'autres luttes passées, comme celle du Larzac, ou contre la centrale nucléaire de Plogoff, ou encore plus récemment Notre-Dame-des-Landes, il y a d'ailleurs bien des relations entre la ZAD du Bocage nantais et la lutte anti-bassine, on va aujourd'hui revenir sur le cadre du village de l'eau accueilli par Saint-Martin-les-Mel, grâce au courage politique du maire de Mel et de son équipe municipale. On vous emmène en balade pendant une heure autour d'un point névralgique du village de l'eau, la ferme de la Génellerie située derrière la mairie de Saint-Martin-les-Mel, un magnifique ensemble où s'est établi le QG de Bassine Non Merci et où l'immense grange de la ferme aura servi de magasin général et d'atelier où ça a bricolé dur. Démonstration avec des copains de LFS, l'Outre Fight Sexism. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, bienvenue au village de l'eau. Bonjour camarade.
Bonjour.
Atelier bricolage, perceuse, qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette pancarte?
Garde ton haut s'il te plaît.
Puis un petit dessin à côté avec genre un t-shirt, enfin un haut quoi.
Ouais exactement, un t-shirt orange avec des petits cœurs verts.
Oh bah je comprends pas.
Eh ben oui, alors figure-toi que donc nous on est le dispositif l'Outre Fight Sexism et donc l'idée c'est que tout le monde se sente bien sur ce camp et notamment on est vraiment dans la prise en charge des violences sexistes et sexuelles mais idéalement surtout dans la prévention. Comme ça il n'y a pas besoin de prendre en charge derrière, tout va bien dès le début. Et dès notre arrivée, un des premiers sujets sur lesquels on nous a interpellés c'est cette question d'être torse nu. Parce que le chantier il a commencé il y a déjà pas mal de jours, il a fait chaud, il y a des personnes qui sont mises torse nu et ça se comprend, mais le truc c'est que ces personnes étaient plutôt des hommes cisgenres, voire exclusivement, donc des personnes assignées hommes à la naissance et qui continuent à se définir comme hommes, qui dans notre société peuvent facilement, quand il fait un peu chaud, quand ils transpirent, enlever leur eau parce que c'est agréable, et malheureusement pour plein d'autres personnes, notamment les femmes, les personnes...
Je sens que tu vas me parler de privilèges.
Oui, bravo, exactement, voilà. En fait, nous on aimerait trop qu'il y ait une possibilité pour tout le monde de se mettre torse nu, mais force est de constater que c'est un peu galère actuellement, et donc vraiment dans un but d'égalité, se dire ok, moi je suis un mec cis, je peux prendre de la place, je peux enlever mon haut, et ça va pas être considéré comme choquant.
Parce qu'on l'a toujours fait.
Parce que finalement c'est juste un torse, parce que c'est y a rien de sexuel, c'est juste j'ai trop chaud, c'est juste je vais être confortable, et en fait de réaliser que pour le reste des personnes sur le chantier, en fait c'est pas du tout si simple, puisque si elles se mettaient torse nu, elles auraient un fort risque de sexualisation, donc en général elles anticipent ça et elles le font pas. Et donc là, de demander à tout le monde, un peu par souci d'égalité et de penser aux autres, quoi, parce que ça reste... Faut dire que ça reste aussi une exposition de son corps et que tout le monde n'est pas forcément OK avec ça.
Enfin, vie personnelle, ouais. Je pense pas que ce soit une histoire de confort pour les mecs aussi. Il y a aussi un truc de sexualisation, de « Regardez, je suis viril, j'ai fait mes abdos ce matin. »
C'est vrai que je pense qu'on peut se poser la question sur, effectivement, certaines personnes qui ont une rapidité dans leur enlevage de t-shirt dès que la météo ou l'activité le permet. Et ouais, enfin voilà, nous, juste, ça devient un sujet un peu de plus en plus fréquent, que ce soit en festival, en concert, quoi, pas forcément se mettre torse nu sur la piste de danse. Pareil sur les chantiers. Du coup, c'est pour ça qu'on demande ça. Là, on fait des pancartes, du coup. On a fait passer le mot au mégaphone. On a eu des retours. Et ben, quelqu'un qui, du coup, s'il se reconnaît Big Up, qui nous a expliqué pourquoi il aimait bien être torse nu, mais que là, il allait garder son t-shirt. Donc c'est tant mieux, voilà. Et honnêtement, enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de relou. Je pense que des gens ont pu discuter entre eux et potentiellement exprimer un mécontentement. Mais en tout cas, personne n'est venu jusqu'à nous pour nous dire « c'est pas ok, vous vous saoulez » ou je sais pas quoi. Enfin, globalement. Et on a l'impression que les t-shirts ont été remis. Donc on est plutôt content.
Donc pas besoin de faire de la pédagogie sur la notion de privilège ?
Je pense que si. Après, ce qui est cool, c'est que du coup, pour en parler avec les copaines et les camarades, il y a pas mal de personnes qui sont eux-mêmes des maxis, qui sont prêts à faire ce taf. Parce que nous, on est vraiment un peu fatigués. Et en gros, là, sur l'outre-face sexism, on doit prendre en charge vraiment plein de trucs. On n'a pas été les seuls à le faire, d'ailleurs, mais c'est aussi nous qui, par exemple, remettons bien, OK, cette douche, elle est pour les personnes mint, donc meuf, intersexe, non-binaire, trans. Enfin, tu vois, c'est à la fois ces tout petits trucs de signalétique, mais par contre, on va aussi écouter des récits de violence, et y compris des récits de violence malheureusement hyper graves et hyper lourds. Et du coup, nous, on peut pas mettre notre énergie sur faire de la pédagogie auprès des mecs, sur garder votre t-shirt. Et donc là, c'est un peu genre le dernier step. On met la signalétique, on a fait une annonce au mégaphone. Et les prochaines étapes, vraiment, on attend que ce soit aussi les autres personnes, les autres villageois, villageoises, mais notamment villageois, les autres maxis, qui disent à leurs copains, là, tu peux garder ton t-shirt, c'est bon, quoi.
Sexisme et violence, même en milieu militant, comment nous, les militants, on n'est pas complètement déconstruits ?
Bah oui, malheureusement. Depuis que ça existe, ce genre de dispositif, régulièrement, dès que ça existe, il y a des personnes qui viennent pour déposer des récits. Donc on voit que c'est nécessaire. Et puis il y a des personnes qui continuent à agresser, il y a aussi des témoins. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit que c'est nécessaire à la fois parce qu'il y a des personnes victimes qui viennent parler avec nous, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui assistent à des actes pas ok. Ce matin, on a fait une formation, deux formations qui étaient trop cool avec des gens du bar, de la cantine, plein de bénévoles. Et voilà, clairement, vu les discussions, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que ça existe encore en milieu militant.
Rappelez-moi le nom de votre collectif.
Alors, nous, on s'appelle Loutre Fight Sexism et on s'inspire d'un protocole et d'un dispositif génial des copains de Notre-Dame-des-Landes qui s'appelle Festivité Fight Sexism, FFS, et Riots Fight Sexism, en contexte de répression. Notre action principale pour le village, comme il y aura du monde et tout, en tant que LFS, c'est de prendre en charge les personnes victimes, donc de faire de l'écoute active, de l'écoute féministe. En amont de cette écoute, il y a tout l'aspect prévention, on a fait quelques formations, et il y a tout cet aspect signalétique, etc. Mais on est aussi hyper aidé par la veille, et la médiation, la veille qui de manière générale est vraiment cet organe qui essaye de faire en sorte que tout le monde, tous les villageois, villageoises s'emparent de la question du soin collectif. Donc il y a notamment des gens qui vont patrouiller H24 pour venir en aide, filer des infos, intervenir si une situation semble tendue ou dégénérée, etc. Et la médiation, elle va nous venir en aide parce qu'elle va à la fois prendre en charge les conflits de toute nature, mais aussi spécifiquement dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, prendre en charge les personnes autrices de ces violences, notamment en faisant éventuellement de la pédagogie, mais en tout cas en ayant tout cet aspect effectivement de discuter, d'échanger, de faire prendre conscience de l'acte, etc. Je mets quand même un bémol, sachant que la pédagogie, on l'a fait que jusqu'à une certaine gravité. On estime qu'un viol, on n'est plus sur de la pédagogie, on est sur l'étape d'après, qui donc est le dernier stade de LFS. La riposte, ça peut aller jusqu'à l'exclusion, ou on peut dire éloignement, parce que le but n'est pas du tout que les personnes soient exclues dans le temps et dans l'espace, mais que par contre, on a un dispositif qui s'appelle le bouton rouge, et que si une personne, malgré le fait qu'elle a commis donc, des actes qui sont très graves, qui mettent en danger la sécurité d'autrui, refuse...
Grave ou même malaisant.
Malaisant si c'est répété dans le temps. C'est-à-dire que si tu fais un acte malaisant, tu ne vas pas être exclu du village. Par contre, si de manière fréquente, malgré les relances de la médiation, tu continues à avoir un comportement qui n'est pas acceptable, on va te demander de partir. Et si tu refuses de partir, on va activer le bouton rouge. C'est-à-dire qu'on va venir en nombre, parce que le but n'est pas de virer la personne manu militari avec de la violence physique, mais on va juste venir en nombre, une masse un peu silencieuse et juste présente, pas d'escalade de la violence, mais juste dire « maintenant on te demande s'il te plaît de partir ». On espère que ce ne sera pas utilisé et activé, on espère que tout le monde va faire en sorte que ça se passe bien et tout, mais ça existe.
Alors, sinon, il y a un argument et je vais vous laisser à votre ouvrage, parce que vous avez un certain nombre de panneaux à monter pour mettre sur tout le site et je vous retarde. Mais on peut aussi dire aux gens, de toute façon, le soleil est dégueulasse et file le cancer de la peau. Donc, se mettre torse nu, de toute façon, c'est pas bon pour la santé.
Exactement.
Ça n'a rien à voir avec le féminisme.
Non, mais je pense que comme on est dans un truc de soins global et que nos camarades médics apprécieraient ton message, et comme on bosse avec eux à la Tente des Merveilles et au pôle soins, je ne peux que être d'accord.
Et une fois fini, toutes ces pancartes donc, vont être disséminées partout sur le site.
Exactement, partout, sauf sur le camping, parce qu'on se dit, pour le coup, sur le camping, si t'es à côté de ta tente, que t'es torse nu, ça nous semble autre chose, il y a un peu l'idée que ta tente, c'est un peu, ouais, là, on n'ira pas trop les chercher. Mais même au camping, je précise que c'est quand même toujours cool de s'assurer du consentement de tout le monde, et que tu te mets pas voilà, à poil ou torse nu sans un peu checker si les personnes autour de toi sont OK, quoi.
Ouais, et puis même, c'est un peu hypocrite de demander « ça vous dérange si je me mets torse poil ?» Gardons nos t-shirts, sacre bleu.
Et oui, gardons nos t-shirts, et garde-toi, s'il te plaît, comme le disent nos panneaux, ouais.
Alors, bon bricolage et bon travail à vous, les loutres.
Merci.
Alors, le ton est ici léger, mais le sujet est sérieux. Et on reviendra au cours de cette série sur ces questions de care et de prendre soin qui, sur ce village de l'eau, n'auront pas été que des mots à la mode ou des vœux pieux, mais bien des réalités issues d'une volonté générale de respect et de cohésion. Bah oui, comment lutter correctement si nous avons des relations pourries entre nous ? Mais pour l'heure, on revient sur le cadre du village de l'eau avec Mathieu, qui travaille toute l'année en maraîchage sur cette ferme municipale de la Génellerie. Bonjour Mathieu.
Bonjour, je suis le maraîcher sur cette ferme et en gros je travaille avec le café du boulevard Hamel. On développe un projet agricole pour fournir directement le café depuis un an et demi. Et on a eu l'opportunité de proposer notre projet à la municipalité qui possédait la Génellerie. Voilà, de commencer à investir le lieu avec un projet agricole qui était cohérent avec la dynamique qu'ils voulaient donner à cet endroit.
C'est magnifique, là on est au milieu de plusieurs bâtiments. Là au moment où on se parle, c'est le démontage du village de l'eau. Et donc ça s'affaire dans tous les coins, les gens sont en train de démonter et il y a du taf.
Il y a un peu de taf, ouais. L'idée c'est quand même de rendre l'endroit à peu près dans l'état dans lequel il était avant l'événement, avec quelques acquis en plus.
Qu'est-ce qu'on voit tout autour de nous ? Là, il y a une grange là-bas.
Il y a une très très grande grange. En fait, l'ensemble des bâtiments de la ferme, ça représente à peu près 1000 m² de bâtiments. Avec une très grande maison qui contient également pas mal de greniers. La grange, elle est associée à une étable. Et après, on a quelques dépendances. Donc aussi une dépendance qui est un fournil avec un four à pain.
Donc c'était une grosse ferme. Enfin, ça reste une grosse ferme.
L'ensemble des bâtiments font qu'il y a eu une activité assez importante, notamment autour de l'élevage bovin, jusque dans les années 90. C'est une ferme du 19e siècle. Il y a beaucoup de pierres datées de la première moitié du 19e siècle. Le grand défaut de cette ferme, c'est qu'elle a été morcelée au niveau de ses terres agricoles. Si l'ensemble des bâtiments a encore énormément de cachets, une vraie valeur patrimoniale, il ne reste plus que 4 hectares de terrain qui sont associés à cette ferme, alors qu'elle en possédait plus de 30 encore au milieu du 20e siècle.
Et donc des années 90 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'il est devenu ce lieu ?
Il y avait des projets, l'ancien propriétaire projetait d'en faire du logement, diviser un peu les bâtiments pour y faire différents appartements, studios, ce genre de choses. Et la municipalité de Mel, avant d'être la municipalité de Mel, c'était la municipalité de Saint-Martin-les-Mel. En 2019, Mel et 4 autres communes se sont fusionnées. Et donc Saint-Martin a été indépendant de Mel jusqu'en 2019. Et du coup, dans les années 2010, parce que le propriétaire n'a pas été accompagné par les banques sur la valorisation immobilière du lieu, la municipalité de Saint-Martin a racheté la ferme avec un peu les mêmes objectifs, en envisageant même de lotir les quelques terres encore disponibles sur le lieu. Et c'est en 2020 que l'équipe de Sylvain Griffeau,
l'actuel maire de Mel,
en découvrant le lieu, on fait le choix de dire non, il y a assez de parcelles à lotir sur l'ensemble de la nouvelle commune de Mel pour qu'on n'ait pas à démanteler ce qui reste un tant soit peu intéressant de cet endroit. Et du coup, de proposer un projet agricole autour de ce lieu. On est à proximité de la zone de captage d'eau potable de Mel. Je crois qu'il y a à peu près 4000 habitants qui en fait dépendent d'un point de captation d'eau, une station de pompage qui est à moins d'un kilomètre en aval. Du coup, il y a toute une dynamique de la municipalité qui consiste à maîtriser les pratiques agricoles sur le secteur de la station de pompage parce qu'on est sur une zone d'infiltration rapide qui fait qu'en fait on a un impact direct des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau. Donc du coup de prendre le problème à la source et d'avoir beaucoup plus de vigilance aux pratiques agricoles exercées. Et du coup la ferme elle devient une espèce d'espace pilote pour permettre l'accompagnement ou le portage de projets agricoles entre guillemets vertueux. Nous, on est arrivé juste après le Covid avec le Café du Boulevard. On s'est rencontré avec Jérôme là-bas, a beaucoup discuté de techniques agricoles. Moi, j'ai toujours été très intéressé par un peu des choses alternatives.
Travailler. T'étais maraîcher de formation ?
Pas du tout. Non, je suis paysagiste de formation. J'ai toujours été quand même très sensible à la question du végétal, du paysage, de l'environnement, du fonctionnement écologique d'un espace, d'un lieu. Et forcément, en découvrant cet endroit, on n'a qu'une envie, de le valoriser et de le rendre encore plus beau, quoi.
Le village de l'eau de Bassine Non-Merci et des soulèvements a eu lieu donc sur ce site et dans la vallée de l'Argentière, qui est ce cours d'eau qui sillonne. L'une des problématiques, c'était que les gens ne fassent pas leurs besoins n'importe où, parce qu'on est effectivement, comme tu le disais, sur une zone qui alimente en eau potable les habitants. Et donc, il y a eu un gros soin qui a été apporté à mettre des toilettes sèches et des pissotières partout.
Étant présent sur place et démarrant un projet agricole qui n'a qu'une année et demie d'existence, on avait beaucoup de places de disponibles. Avec le projet agricole, nous, on n'utilise que 10% en fait, de la surface bâtie disponible. La rencontre avec l'équipe du village et la régie générale de l'événement, ça a été de dire bah, en fait, c'est plutôt propice comme site parce que finalement, on n'en occupe pas la totalité. Et votre présence, elle va aussi permettre de faire revivre cet endroit et de lui donner un coup de boost. Mais attention, on est sur une vallée assez fragile. Hein, le cours d'eau, il est quand même assez petit finalement. Et avec beaucoup de qualités écologiques, naturalistes. Hein. On sait qu'on a sur un site où on a une forte présence de libellules, de chauves-souris, que du coup, il ne fallait pas altérer ça. Hein. Donc, ce qui a été imaginé dès le départ, et avant même de penser l'implantation du lieu, c'était de mieux comprendre ce lieu-là. En interpellant des camarades naturalistes pour nous accompagner dans des inventaires, une vraie enquête écologique de ce lieu, et tout de suite de s'imposer techniquement quelque chose, une contrainte assez lourde, pas de déchets organiques, compost, les urines, les excréments issus des toilettes sèches, qui soient laissés sur place. Donc de trouver des modalités d'évacuation et de se raccorder aussi tout à l'égout. Une vraie réflexion de l'équipe technique du village, collecte des eaux usées, que ce soit des cantines ou des pissotières, et avec des systèmes de pompes de relevage, donc collectés dans des bacs tampons qui ont été mis exprès sur place, aux bonnes altitudes et tout, et de repomper ça avec des pompes de relevage pour renvoyer dans le tout à l'égout. Une pensée qui s'est faite sur 3 mois, avec une installation qui a duré une quinzaine de jours. Voilà, sur la question des toilettes sèches, on évacue tout chez un agriculteur qui compostera chez lui. Il y a eu de l'inventivité, ouais.
Ça, c'est un fournil, en fait. C'est, ouais. Donc, c'est une vénérable bâtisse, belle pierre, un beau linteau massif. Et tout au fond, là, il y a ce four. On peut aller jeter un œil.
On peut aller jeter un coup d'œil, ouais.
Donc, on rentre. Alors là, on est devant le four.
Quasiment 3 mètres de profondeur, 2,30 mètres de large. Ça fait un peu plus de 6 mètres carrés de surface. Donc lui, il a été très endommagé. Ce qui était intéressant avec ce bâtiment, c'était que c'était mon local de maraîchage. Quand on est arrivé l'année dernière, on est deux à travailler sur le projet agricole avec Jérôme, qui était très peu présent cette semaine, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi au Café du Boulevard et sur les prestations externes du café. Mais du coup, ensemble, on a un peu imaginé comment construire cette petite ferme et ce projet agricole. Et du coup, le seul bâtiment qui fermait à clé, c'était celui-là. Donc nous, on avait le micro-tracteur ici, différents types de matériel agricole. Quand on a pensé le village de l'eau, moi j'ai souhaité accompagner aussi la démarche pour qu'elle soit la plus cohérente avec le lieu et de me mettre disponible pour ça, de façon aussi à récupérer le lieu après dans un état correct ou même encore meilleur en fait, hein, et d'imaginer collectivement aussi des choses pour le futur de ce lieu. Et parmi cet imaginaire-là, quand on a vu le four ensemble, on s'est dit il faut que ce four refonctionne pour le village, parce qu'il fait partie d'une forme de culture collective où en fait un four comme ça, en fait on en a un usage collectif et que c'était complètement cohérent avec l'aventure de Bassine non merci d'une certaine manière. Donc du coup, ça nous a amené à se dire qu'en fait, il y avait un certain nombre de choses qui devaient bouger dans la ferme pour qu'on soit en capacité d'accueillir le village de l'eau et de laisser des traces pérennes, bénéfiques pour le lieu. Et du coup, on s'est mis le challenge de restaurer ce four et de proposer à la mairie, sous forme de contrepartie, la restauration du four. Et ayant été présent très tôt, en fait, j'ai proposé d'accompagner tous ces chantiers pour que, voilà, il y ait aussi à la fois de la cohérence dans la manière de les mener, parce que j'avais une connaissance peut-être un peu plus fine de l'endroit. Du coup, on s'est fait accompagner de gens compétents.
Parce qu'il était dans quel état ce four avant que vous en occupiez ?
C'est qu'il était abandonné, parce qu'en fait, il n'était plus du tout fonctionnel. La sole était complètement sans dessus-dessous. Donc la sole, c'est la surface hein, sur laquelle on va faire le feu puis cuire le pain sur ce type de four du début du 19e siècle.
C'est de la tomette ?
C'est une tomette réfractaire qui fait 25 par 25 par 5 cm d'épaisseur. Et il y en a plus de 6 mètres carrés. On a remplacé intégralement la sole, rampant à l'intérieur pour vider et décaisser en fait, le four. Donc la voûte, il y a moins de 1 mètre de hauteur, il y a 6 mètres carrés, donc c'est un peu exigu. Et, du nettoyage. Ensuite, un maçon qui avait déjà travaillé sur des fours à pain nous a accompagnés pour refaire une chape en chaussable pour redonner une surface plane qui allait permettre de reposer les tomettes. Tomettes qui sont posées à sec, pas de colle. Les joints sont secs aussi pour que ça permette en fait la dilatation à la chaleur. En chauffant le four, en fait, les pierres vont un peu bouger les unes par rapport aux autres, et du coup, il faut que il y ait une capacité du four à être un peu souple. Donc c'est la raison pour laquelle la sole est posée à sec et qu'elle est légèrement inclinée. Elle est inclinée vers le fond, ça monte vers le fond. Sur les 3 mètres de profondeur, ça doit monter d'une quinzaine de centimètres. Et cette déclivité, en fait, elle permet un meilleur travail avec les pelles, notamment dans le four. Moi, je ne suis pas du tout boulanger, hein. C'est juste que les techniques paysannes m'intéressent beaucoup. Et du coup, c'est sujet de longues discussions sur le fonctionnement des choses. Et c'est toujours très intéressant de se confronter à un chantier où on rencontre des gens qui ont énormément de choses à partager et d'échanger là-dessus. Donc ça a été 3 week-ends de travail entre mai et juin. On voulait qu'il y ait un espace qui soit là avant le montage et qui permette aussi d'être une sorte de moyen de médiation avec les voisins, les locaux, les bénévoles, de ne pas imposer immédiatement le village de l'eau, mais d'être dans une démarche progressive par rapport à ça, de montrer aussi qu'en fait le collectif il est là pour construire et proposer des choses pérennes. Et ça nous a donné l'occasion de le faire fonctionner quelques fois. Il n'a pas fonctionné dans le cadre du village de l'eau parce que sa remise en route est trop jeune. La compréhension du bon fonctionnement d'un four de ce type-là nécessite un peu de temps. Et ça aurait été périlleux de répondre aux besoins de boulangerie avec ce four pendant la durée du village, vu les volumes de pain qui ont été produits.
5 tonnes, non, sur la semaine, un truc comme ça.
Oui, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Là, une fournée sur ce four-là, on parle entre 50 et 70 kilos par fournée. Aujourd'hui, on n'y a pas encore fait de pain. On s'en est servi pour faire des tartes, la pizza.
On met et les tartes et le combustible dans le même endroit.
Ouais, sur ce type de four, oui.
Vis-à-vis des administrés, des concitoyens, concitoyennes de Mel, est-ce que ce projet de four a permis de faire comprendre aux gens ce qui allait se passer ici et que non, ça n'allait pas devenir une base d'éco-terroriste ? Voilà, est-ce que ça a rassuré des gens ou aidé à comprendre ce qui s'est passé ici ?
Enfin, oui, pour les personnes qui sont venues, parce que ce qui a été le plus difficile, c'est de sensibiliser. En fait, la ferme de la Génerie n'est pas encore un lieu très connu sur le Mélois. Okay. C'est un projet tout jeune, même pour l'équipe municipale, qui avait eu du mal à travailler dessus pendant la période du Covid. Il y a aussi une ambition de lancer vraiment une dynamique sur ce lieu. Alors là, forcément, avec la semaine qui a eu lieu, on va dire que la dynamique, elle est lancée, quoi. Et on a eu l'occasion d'inviter quelques voisins, voisines, montrer aux élus déjà le travail qui avait été fait. Alors déjà, ça nous a permis d'avoir la confiance des élus dans la démarche. Ça, c'est déjà pas rien. Et derrière ça, quelques voisins qui ont été sensibles et qui ont pu en discuter, mais disons que cette médiation-là n'était pas totalement acquise. On va continuer en ce sens, je pense que l'idée à l'automne, ça va être de débriefer de ce qui s'est passé cet été avec le voisinage et qu'on profitera sans doute de ce four et de ce lieu pour les accueillir.
Est-ce qu'on continue notre visite du site? Alors évidemment, il est tellement grand qu'on ne va pas pouvoir tout voir. Je serais assez intéressé pour aller faire un petit tour, voir l'endroit où tu cultives.
Alors moi, je cultive principalement sur le site de la ferme. Ouais. On peut passer là derrière, juste derrière le four. D'accord. Il y a la première parcelle qu'on a ouverte l'année dernière. Avec le café du boulevard, l'idée, c'est on s'est donné donc 4-5 ans pour répondre à 80% des besoins en légumes de ce lieu, café, cantine, hein, local. 50 à 70 couverts par jour, toute l'année, avec un plat du jour unique et des quiches.
Et c'est un lieu privé?
C'est un lieu privé, c'est une SARL, oui. Mais qui est aussi un lieu qui met à disposition ses espaces à de nombreuses associations pour proposer aussi toute une programmation culturelle sur le lieu. Et qui aujourd'hui est en train de basculer de la SARL à la SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et que du coup, les réflexions qui ont été menées sur la SIC, démarche un peu longue, hein, qui a déjà 2 ans, dont on devrait voir les fruits cette année. Une des réflexions sur la SIC était d'y associer au café un projet agricole, alors forcément à l'échelle des besoins du lieu. Aujourd'hui, on a démarré avec 2 parcelles, une de 1000 m² qui est devant nous, une autre de 1500 m². Une serre de 300 m² à laquelle on va en associer une seconde. Sur ces parcelles et ces serres, on va cultiver, cette année, ça va être pommes de terre, courgettes, diverses variétés de courges, poireaux. Dans la parcelle devant nous, on a des oignons, de l'ail, de l'échalote, carottes, du navet, du céleri, salade. Parce que les besoins là, du café, c'est 4000 salades à l'année. Et dans la serre, on va avoir tomates, poivrons. Donc on n'a pas fait non plus un spectre trop important de légumes. L'idée, c'est d'être en capacité à comprendre comment les cultiver ici et progressivement en cultiver de plus en plus par type de légumes. On a 1200 poireaux là sur le terrain et avec ça, on répond aux besoins du café de septembre, octobre à mars. La suite, ça va être de répondre toute l'année aux besoins de poireaux par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une échelle intermédiaire entre celle d'un maraîcher professionnel qui tient l'étal toutes les semaines sur le marché ou qui fait des paniers et le jardin particulier. On est bien au-dessus du jardin potager et en même temps, on n'est pas du tout au niveau d'un maraîcher professionnel. Et moi, cette échelle intermédiaire, elle m'intéresse beaucoup pour plein de raisons parce qu'en fait, elle permet un peu d'être un lien entre ces deux démarches de jardinage qui ne sont pas les mêmes. Et avec Jérôme, on se pose beaucoup de questions autour de l'éducation populaire, autour de tas de choses. On imaginerait bien que ça soit aussi un espace d'échange et de transmission, ce lieu-là. Et que pour ça, on n'a pas besoin non plus de quantité phénoménale. Moi, je travaille en temps partiel.
Qui est ton employeur?
Du coup, le café. On n'a pas de structure agricole, moi je suis salarié du café.
Et l'espace ici appartient à la municipalité?
Oui, on est en location. Et du coup, l'idée, c'est quel est mon coût de charge salariale et quel volume de légumes je suis capable de faire par rapport à ce que je coûte au café, moi, personnellement. Et du coup, de trouver l'équilibre là-dedans. À partir de ce moment-là, en fait, ça permet de stabiliser un emploi qui, aujourd'hui, est partiel, peut-être va se développer un peu plus dans le temps. Et dès le début, j'ai dit, mais dès qu'on a la possibilité de basculer sur du temps plein, il faudra très vite qu'on bascule sur 2 temps partiels. Parce qu'on sera dans une démarche de transmission de savoir et de savoir-faire qui sera plus pertinente que de s'isoler. Parce que moi, c'est finalement l'isolement du monde agricole ou le sacerdoce de la ferme qui me fait beaucoup peur. Et d'être dans quelque chose d'un peu plus léger, où on peut avoir un autre emploi complémentaire à côté ou d'autres projets professionnels, tout en ayant une implication dans le monde agricole, moi, je trouve ça vraiment pertinent. Parce que je pense que si on veut un peu sortir le monde agricole de ses galères, c'est qu'il faut inventer de nouveaux modèles. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'on essaye de faire ici.
Le bâti, il est encore dans son jus, hein, quand tu dis 19e. Cette porte-là, par exemple, elle n'est pas jeune.
Ah non, non, ça c'est sûr. Et en fait, là, il y a eu un grand dépoussiérage de fait. La maison, nous, on ne s'en servait pas du tout. Hein, et là, après le village, en fait, les clés vont être rendues. L'idée, c'est pas de squatter intégralement le lieu, hein, mais avant d'être vendue, il y avait eu quelques travaux de fait qui ont fait aussi qu'elle est encore confortable et utilisable aujourd'hui, quoi. Même si ça fait quelques années qu'elle n'était pas ouverte. On va aller voir les ânes.
Donc là, on descend le petit chemin qui va de la ferme et on voit les deux baudets là, de l'autre côté du chemin,
ouais,
dans leur pré. Pré où ils ont passé la semaine, en tout cas.
Petite parcelle qu'on leur a préparée pour la semaine, qui est bien plus petite que les terrains sur lesquels on les fait paître d'habitude, mais qui était amplement suffisante.
C'est la petite barrière discrète qui monte à la ferme. La ferme qui était donc le centre logistique de ce village de l'eau. Et nous voilà sur la grande rue du village de l'eau. On voit encore les chapiteaux là, qui sont toujours dressés sur la grande prairie qui est là-haut. Et il y en a une autre en contrebas où il y avait d'autres chapiteaux. Toujours les équipes de démontage qui s'activent dans tous les sens. Mais je suppose que c'est beaucoup plus calme à l'année ici.
Le chemin sur lequel on est, en fait, est chemin d'accès au centre des services techniques. Le centre des services techniques municipaux a été construit sur une partie des terres de la ferme, un peu en enclave. Il y a un chemin d'accès qui a été aménagé pour lui et est devenu la colonne vertébrale du village de l'eau. On a à la fois une ferme avec ses terres et à la fois en fait des équipements municipaux qui vont du centre technique municipal à la mairie de Saint-Martin avec la salle des fêtes associée et ses terrains de foot. Tout cet ensemble a pu être utilisé de manière combinée pour le village de l'eau. Et du coup, le village de l'eau s'est quasiment étendu sur 10 hectares, alors que la ferme n'en fait que 4. Voilà.
Ils sont magnifiques, ces ânes.
Ouais. C'est Baudet du Poitou. C'est vraiment la race locale d'ânes, qui a fait aussi des heures de gloire passées de Mel, hein, parce que Mel a été un centre de commercialisation, de vente, d'élevage de cette race.
On peut aller les voir ?
Ah oui, on peut aller les voir.
Ils sont mignons comme tout, hein. Alors il y a des petits écriteaux partout, ne pas nourrir les ânes. Pourquoi on peut pas donner un bout de pain aux ânes ?
Parce qu'un bout de pain, ça peut l'emmener chez le vétérinaire. En fait, l'âne ne rechignera pas forcément à la gourmandise, à la gâterie, mais qu'en fait, il faut être très vigilant. Et je pense que n'importe quel éleveur, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau de la santé des animaux, le premier vecteur quand même reste quand même la nourriture. Et donc ne pas avoir conscience ou connaissance de la manière dont les bêtes ont été nourries, c'est en fait la première inconnue sur une maladie potentielle. La raison pour laquelle on demande toujours de ne pas nourrir les animaux, c'est d'avoir nous-mêmes la connaissance de la manière dont on les a nourris au cas où il y aurait une difficulté, un problème. Et surtout de connaître le métabolisme de ces animaux, et notamment chez l'âne, on a un animal qui a un régime assez pauvre, et donc venir avec quelque chose de trop riche pour lui, ça peut vraiment poser des problèmes.
Ils viennent nous voir.
Ah, oui.
Long poil. Il y en a qui est plus poilu que l'autre.
Celui qui est le plus poilu, c'est Coco, qui a 4 ans, qui arrive tout juste ici. Et l'autre, c'est Quarel, qui en a 22 ans, qui lui est un demi-baudet. Il est croisé. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas tout à fait la même toison.
Ouais, son pépère, il est trop content. Il y en a un des deux qui est en train de se rouler dans l'herbe comme un chat ou un chien au soleil.
Ouais.
Pas stressé, hein.
Non, mais ça, on était convaincus que toute cette présence de foule n'impacterait pas sur leur bien-être. Hein. Faut juste prendre les bonnes précautions, quoi. Mais
ça les a distraits.
Ouais. Là, ils sont extrêmement sociaux, c'est ça qui est intéressant.
Et ils font partie du projet ?
Ils font complètement partie du projet. Quarel, le plus âgé, avait été acheté déjà il y a quelques années quand il y avait déjà une démarche de jardin pour le café avec des tentatives de traction animale. Et finalement, le projet a un peu avorté. Et aujourd'hui, on est un peu en train de le faire renaître. On a les deux générations de l'idée d'un projet agricole pour le café du boulevard ensemble. Ça a été le deal dès le début. Quand on m'a proposé le projet agricole, on m'a dit qu'il faudra qu'il y ait de la traction animale dedans. Il y a eu une première idée il y a une dizaine d'années qui n'a pas eu lieu. Mais là, il y a une idée de c'est quoi une agriculture pérenne dans le temps. Si on développe un projet agricole pour un restaurant, c'est qu'on a envie de pérenniser une stabilité des prix et de qualité de la nourriture pour les clients du restaurant. Et donc, du coup, quels sont les outils qu'on a à disposition pour ça, hein? C'est de minimiser nos besoins en énergie fossile, le choix d'une agriculture biologique pour minimiser les intrants et d'avoir en fait les légumes les plus qualitatifs possibles, d'avoir une chaîne de distribution qui soit la plus courte. En fait, ici, on peut cueillir le matin, cuisiner dans la matinée et c'est servi à table. Ce qui fait qu'en fait, on a la capacité à faire énormément d'économies par rapport au gaspillage qui est fait dans les chaînes de distribution conventionnelles. Et donc, c'est là où ce genre de petit projet, pour moi, il est hyper pertinent. On produit juste ce qu'on a besoin. Et on se pose déjà des questions, notamment par rapport à la stabilité de production annuelle, de produire plus et de trouver d'autres circuits de valorisation pour la surproduction, notamment des épiceries solidaires ou ce genre de choses. Parce que souvent, sur une étale de marché, pour séduire le client ou la cliente, le maraîcher se doit de respecter un certain calibre, une certaine esthétique.
Pas de légumes tordus, ça fait mauvais genre.
Voilà, c'est ça. La MAP, elle résout déjà un peu mieux ces problèmes-là, le panier. Mais nous, là, sur le café, on a fait le choix carrément de s'accompagner d'une apprentie en cuisine en plus pour résoudre en fait le problème du temps de travail que représentent des légumes tordus ou des légumes moches.
Mais c'est pas seulement que ça fait mauvais genre, c'est qu'une carotte tordue, c'est moins pratique à éplucher.
Tout à fait. Et puis, faut l'intégrer dans la réflexion même du projet de restaurant. Et du coup, l'âne est à la fois un élément patrimonial local parce qu'il a fait les heures de gloire du Mélois au 19e siècle où en fait l'âne a... Alors, le Baudet du Poitou servait de reproducteur pour la mule poitevine. Il était élevé comme le mâle reproducteur qu'on croise du coup avec la jument de trait locale. Le croisement des deux nous permettait d'avoir une mule qui a été commercée via le port de La Rochelle sur la planète entière. On s'est retrouvé avec des énormes foires aux bestiaux dans le pays mélois. Et donc, il y a un attachement, une culture à cette race. Et aujourd'hui, si on veut la pérenniser, la faire perdurer, en fait, il faut qu'on lui trouve aussi un rôle aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'expériences un peu hasardeuses de la traction animale asine. Et nous, là, aujourd'hui, on se fait accompagner pour essayer, notamment parce qu'on a des retours d'expérience de certaines personnes qui nous disent « Non, mais... » Un âne bien éduqué vous permettra de travailler correctement pendant une vingtaine d'années en plus. Et c'est ce qu'on ambitionne notamment avec Coco, là. Ils viennent d'arriver, et donc c'est... Même moi, je suis encore débutant en la matière, j'assume complètement. Mais l'idée, c'est comment on va associer l'âne. On n'est pas des radicaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi un microtracteur. On utilise un peu d'énergie fossile, mais c'est d'en minimiser en fait l'usage et trouver la bonne combinaison. On a du matériel de traction animale qui s'adapte aussi sur le microtracteur. Du coup, on a une cohérence dans les techniques de travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui se font sur réinventer le matériel de travail agricole. Surtout de se garantir l'autonomie d'entretien, de maintenance de ce matériel-là. Et là, c'était très chouette parce que sur le village, on a rencontré l'atelier paysan, qui est une structure qui a une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, qui tend à mettre en place des tas de choses autour de l'autonomisation paysanne, notamment sur la question de l'outillage, avec des ateliers d'initiation à l'autoconstruction d'outillage agricole, qui sort beaucoup de publications, des recueils, qui publie ses plans sur Internet, qui fait un certain nombre de formations. Et aujourd'hui, ils cherchent vraiment à trouver une manière de développer ces compétences-là à l'échelle territoriale. Donc, ils sont basés à Grenoble. L'idée, c'est qu'ils essayent d'essaimer et de trouver des lieux qui puissent être partenaires en fait, de cette démarche-là. Et on a eu de belles conversations ces 4 jours ensemble. Et je pense qu'on va être amené à les revoir pour imaginer aussi des choses ici. Dans le cadre de la vallée de l'Argentière, sur les 4 hectares de la ferme, il y a moins d'un hectare où on a une terre arable, une terre végétale suffisamment épaisse pour imaginer de la culture potagère. Du coup, on se retrouve avec tout le reste de la surface qui est soit de la pelouse sèche, donc celle où on avait le champ de foire avec la grande scène et tout installé, où finalement là on a moins de 5 cm d'épaisseur de sol avec le caillou qui est parfois affleurant sur certaines zones du terrain. Et les autres parcelles en prairie sont en fond de vallon Elle pourrait être cultivée en soi, mais il y a une volonté municipale de préserver les fonds de vallon en prairie, notamment pour préserver la qualité de l'eau d'infiltration. Et donc ces deux aspects-là font que, oui, on a énormément de surface de prairie sur cette ferme par rapport aux surfaces cultivées. Et on ne peut pas se permettre, sur l'entretien des prairies du bas, d'avoir un pâturage qui soit trop intensif, parce que du coup, on aurait le même problème en fait que de laisser le public du village de l'eau pisser dans la rivière. Donc finalement, les ânes amènent une solution intéressante, parce que ça nous permet d'avoir un pâturage extensif, qui est celui qui prend le plus de place possible avec le minimum d'animaux, pour qu'on ait l'impact des urines qui soit la plus faible possible sur le fond de vallon. Et en plus, ça c'était une petite angoisse quand même du printemps, c'est qu'il a énormément plu, tellement plu qu'en fait le vallon a été inaccessible en botte jusqu'au mois de juin. Okay. Donc on était à moins d'un mois de l'événement, que les bottes s'enfonçaient encore à moitié dans la prairie. Donc cette prairie humide, si elle est intéressante pour son écologie, on doit en limiter aussi l'usage au maximum. Donc on peut en faire une prairie de fauche. Et là, les ânes, ils vont y descendre pour y passer la deuxième partie de l'été. Et à l'automne, quand le champ de foire aura commencé à reverdir et que les pluies rendront la prairie du bas à nouveau difficile d'accès, on remontera les bêtes pour qu'elles n'aient pas les pieds dans la boue. Voilà.
Alors un autre truc qui m'a épaté là sur ce village de l'eau, je ne sais pas si c'est les naturalistes, il y a eu des périmètres qui ont été délimités aux abords de l'Argentière, donc du cours d'eau qui passe dans la vallée. Il ne sillonne pas vraiment, hein. Il a été canalisé, mais il y a un projet de reméandrage de ce cours d'eau. D'ailleurs, il y a des petits panneaux qui expliquent ça. Et le truc très chouette quand même, c'est qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont passées par ici, qui ont campé ici. Et il y avait cette délimitation de part et d'autre du cours d'eau où on a laissé de la zone en herbe, parce que c'est une zone riche en biodiversité. Et assez épatant de voir que les gens ont respecté la consigne. En fait, personne n'est allé piétiner de part et d'autre du cours d'eau.
C'est une préoccupation qu'on a eue très tôt, de l'impact de ce public, de cette forte présence de public sur cette vallée. Et direct, on s'est dit, la rivière, elle est interdite d'accès. Et en plus, on va lui donner un périmètre de sécurité. Donc 5 mètres de part et d'autre, aucune tente, aucune présence. Et on s'est dit, bon, c'est quand même un peu rude de mettre une rubalise à 5 mètres de la rivière tout le long, comme si c'était un chantier en construction. Et donc du coup, ce qu'on a imaginé, c'est l'installation un peu d'une, entre guillemets, d'une œuvre plastique, non, même pas entre guillemets, l'installation d'une œuvre plastique qui valorise plutôt ce qu'est la rivière. Et ça a été imaginé avec le collectif de naturalistes qui est venu sur le lieu, associé à quelques artistes, en réimaginant ce qu'a pu être cette rivière ou ce qu'elle pourrait redevenir. Parce que quand on va regarder des cadastres anciens ici, on va se rendre compte que dès 1830, sur le cadastre napoléonien, on a une rivière qui est déjà recalibrée.
Canalisée.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a juste deux petites digues, on lui a changé la largeur, l'eau s'écoule plus vite, sans doute pour mieux drainer le fond de vallon, rendre plus utilisable en fait la prairie. Ce qui est intéressant sur ces petites rivières, enfin, c'est pas une grande rivière, elle fait 3 km de long. Voilà, aujourd'hui elle est recalibrée, mais en fait elle fait qu'un mètre de large en étant recalibrée. Donc en fait on est vraiment sur un ruisseau, quoi. Et en fait, ce ruisseau, on aimerait qu'il y ait plus de biodiversité autour de lui. Il faut qu'il y ait un peu des accidents. Il faut que le cours d'eau ne soit pas régulier. Il faut qu'en fait, il s'accélère, il ralentisse, que des zones soient en eau toute l'année, d'autres moins. Et du coup, ça commence à constituer un certain nombre de milieux qui sont différents, parce qu'ils sont modifiés, altérés par la présence de l'eau, inondés ou pas. Et du coup, tout ça va faire que le cortège vivant qui est associé à la rivière sera différent en fonction du comportement de la rivière dans le vallon. Et donc du coup, on est reparti avec notamment un camarade très spécialiste des rivières, se dire, dans ce vallon, qu'est-ce qu'a pu être cette rivière et qu'est-ce qu'elle pourrait peut-être devenir si on adapte aussi les pratiques agricoles à une rivière plus saine écologiquement. Et donc du coup, ça a été symbolisé par l'installation de bambous et de fanions et de portiques aussi, qui évoquaient cette rivière méandrant à travers le vallon, racontant aussi une histoire différente. C'est une installation qui était aussi un outil de sensibilisation pour comprendre aussi pourquoi en fait on met un périmètre de sécurité vis-à-vis de la rivière. Bah, la rivière ici, elle a une grande partie de son cours qui est pris au piège des ronces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça crée le corridor qui permet à la loutre de fréquenter le site. Et très tôt, avec les copains naturalistes, on a installé des caméras pour évaluer si elle était réellement présente, parce qu'on avait remarqué des crottes à certains endroits. Et du coup, il fallait se confirmer une régularité de sa présence, notamment à travers la photo. Et dès le troisième jour de l'installation des pièges photographiques, on avait la loutre en train de chasser, ne remarquant pas du tout la présence de la caméra, se baladant le long de la rivière en quête de proie. Ça a été hyper stimulant à se dire qu'elle est là et on ne va pas la déranger cet été. Et je pense qu'on va veiller à reconsulter les pièges photographiques pour espérer la retrouver.
Et je reviens à cette idée de reméandrage du cours d'eau. Si les anciens, hein, les gens qui ont cultivé ces terres, faisaient ce qu'on appelle un paysage de bocage, avec des haies, des arbres, etc., c'était pas pour faire des cartes postales pour le futur et que ce soit joli, c'est parce que ça a une fonction qui est de retenir l'eau. Accessoirement, ça évite, par exemple, de faire des méga-bassines, puisque on sait bien que le meilleur endroit où l'eau est stockée et stockable, c'est dans le sol et dans la végétation. Ouais. Pendant cette période qu'on a bêtement appelée les 30 glorieuses, qui n'ont rien de glorieux, on a ce qu'on appelle remembrer, détruire ces paysages de bocage, qui n'étaient pas d'ailleurs que des paysages, mais des outils de travail qui permettaient la biodiversité. Ces haies, ces arbres, etc., non seulement retenaient l'eau, mais permettaient de maintenir les alliés des agriculteurs, insectes, oiseaux, etc. Et c'est un peu aussi, je suppose, le message que vous voulez faire passer ici. Reméandrer la rivière, garder de la végétation. C'est pas seulement pour faire beau que vous nous avez fait une jolie carte postale de Vallée de l'Argentière.
Bah, on a la réponse aux méga-bassines, en fait. C'est que on a des portions de territoire qui sont des vraies zones d'infiltration pour permettre à l'eau d'aller dans les nappes phréatiques. En plus, ce sont des paysages de cartes postales, ce qui est loin d'être le cas des bassines. Et du coup, il faut leur redonner ce rôle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, sans doute, on s'est retrouvé avec, à un moment donné, un usage un peu intensif, précoce de certains espaces. Quand on prend des photos très anciennes du territoire, voire des photos aériennes qu'on a dès les années 30 hein, sur le secteur, il n'y a pas un arbre. C'est sans doute lié à la course au foncier, au besoin d'avoir une rentabilité sur la seule parcelle qu'on possède, qui fait qu'à un moment donné, on fait le choix de drainer l'eau plutôt que de réfléchir au bien commun.
Il y a sur une surface en plus, hein, si le cours d'eau il ne sinue plus mais qu'il est canalisé, qu'il va tout droit, il y a un peu plus de surface à cultiver.
Oui, c'est tout à fait ça aussi. Ouais. De toute façon, l'agriculture est toujours un compromis entre des contraintes et ce qu'on essaye d'en tirer, quoi, et des bénéfices. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie sensibilité à ce vallon, qu'on veut exemplaire sur des qualités environnementales. Et ça, il y a une personne ressource sur le sujet quand même. À la mairie de Mel, qui est Pierre Joselon, chargé arbres et biodiversité, et qui accompagne aussi le projet de la Génellerie. Si moi je vous parle de ces projets autour de l'Argentière, j'en suis pas du tout le maître d'œuvre. Hein. On accompagne cette volonté municipale, c'est extrêmement valorisant, parce que du coup, on est dans une cohérence de pensée entre une municipalité, les gens qui mettent en place le projet agricole. On a vraiment l'impression de faire un travail main dans la main. Et je pense que ça va donner ses fruits d'ici quelques années. Le fond de la vallée, pour ceux qui ont fréquenté le camping, il n'y a pas eu une seule tente de plantée. C'est qu'en fait, au bout de ce terrain, donc au-delà de la ferme de la Génellerie, on est en zone Natura 2000. Et la municipalité, elle a créé un espace intermédiaire à la zone Natura 2000, qui est une réserve communale de biodiversité. Au bout de la parcelle de la ferme de la Génellerie, il y a 4000 m² qui sont gérés dans le but de favoriser certaines espèces animales et végétales par rapport aux qualités du milieu, et notamment un papillon qui est le cuivré des marais, qui va grandir sur le rumex, une plante que les jardiniers connaissent bien. Mais le rumex, qui aura subi l'inondation dans son cycle de vie. Il faut qu'il y ait une partie du terrain qui permette ça. Ce périmètre-là étant présent sur la ferme, dès le départ également, a été décidé qu'il n'y aurait pas une seule tente qui serait plantée. Et ce qui a été assez beau sur ce camping, c'est que les tentes se sont bien astreintes à respecter le périmètre qu'on leur avait donné, laissant la prairie vivre sa vie en dehors.
Je n'ai vu personne déambuler dans la zone où on nous demandait de ne pas le faire. On est en train de revenir vers la ferme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on refasse un petit tour du côté de la Grande Grange, qui est quand même une belle cathédrale, et surtout peut-être de parler de la dynamique de chantier qui a suivi celle du four pour que le village de l'eau ait lieu et que ces espaces soient fonctionnels.
Donc on revient sur ce que j'appelais tout à l'heure la petite place de la ferme entre le fournil, la maison, et en face de nous, là, c'est la grange.
Ouais, on va y rentrer par là. Quand on a imaginé, parce que le village, il a fonctionné 6 jours, il a été monté en peut-être 10, un chouïa plus sur certaines choses préparatoires, mais on savait qu'il allait y avoir plein de surprises, surtout un montage qui se fait à cette vitesse-là. Il fallait qu'on ait un atelier digne de ce nom sur place. Et c'est là où le village y prend du sens, parce que même si ces espaces-là n'étaient pas ouverts au public, en fait, ils étaient indispensables au fonctionnement logistique du lieu, que ce soit sur des aspects de communication, de régie et autres.
Je ne sais pas combien de chapiteaux, on ne les compte plus, de l'électricité, des chiottes sèches, je vous en passe, c'est des meilleurs. C'était d'ailleurs absolument génial d'un point de vue logistique.
Comme un vrai village, il fallait son épicerie et son magasin de bricolage. On a adapté la grange à ces besoins-là. On crée un véritable magasin de ressources diverses et variées, comme une vraie quincaillerie. Cordage, bassine, bâche, câble.
Matériel de bricolage, ouais. Malgré l'interdit préfectoral. Pendant cet événement, la préfecture a émis un arrêt anti-bricolage.
Ici, je crois qu'on avait réussi à créer la bulle suffisante pour pouvoir être autonome et indépendant de ces bêtises administratives. Et on a installé une menuiserie, parce qu'on savait qu'à n'importe quel moment, on allait manquer de choses, que ce soit du mobilier, des éléments de déco et tout ça. Tout le travail préparatoire qui s'est fait en même temps que la restauration du four à pain était de se dire, il faut s'équiper sérieusement, parce que si à un moment donné, on est coincé ici et qu'il nous manque 25 tréteaux, comment on s'y prend? Et donc du coup, on a installé les équipements techniques, on s'est livré les semaines précédentes, on s'est chargé d'amener 30 mètres cubes de boîtes de chute de scierie, tout format, toute longueur, en vrac, et qui nous a servi de mine pour répondre à toutes les demandes. Il me faut 4 tasseaux, il me faut un tréteau, il me faut une table, il faut une passerelle pour passer un fossé, il me faut une barrière pour empêcher un accès. Et du coup, ce qui a été assez fou, c'est la ruche qu'a été cet atelier pendant le montage. Quand les premiers bénévoles arrivent pour filer la pâte, on dit qui a des compétences en menuiserie, qui sait utiliser du matériel électroportatif ou du matériel d'atelier. Et du coup, on a une combinée à bois qui nous a permis de déligner une quantité impressionnante de bois pour notamment réaliser, je ne sais plus, une quarantaine de tréteaux parce qu'on était vraiment en manque. En puisant dans les compétences du public, du bénévolat, en fait, on arrive à résoudre énormément de problèmes. Et ça a été le cas sur des questions de menuiserie, des questions d'électricité, des questions de décor, des questions artistiques. Et ça, c'est vraiment des échanges qui sont géniaux.
On passe donc par le magasin général. Et donc là, ça s'affaire évidemment, puisque c'est le démontage, Oh, c'est immense et la charpente est magnifique.
Petite cathédrale.
Tu connais les dimensions ?
Presque une vingtaine de mètres en largeur, on doit en avoir 50 dans l'autre.
Et de hauteur, une bonne douzaine.
Je dirais un peu moins quand même. Au début, on s'imaginait qu'on pouvait en faire un espace public pour des conférences ou autres, permettant d'économiser un chapiteau, mais finalement, les besoins logistiques du village ont fait que on est dans un lieu qui permet à l'abri vraiment de trier, stocker tout le matériel, de le redistribuer vers les différents prêteurs.
Ouais, et c'est pas de trop en fait, hein, ouais. Vu la logistique nécessaire pour accueillir ces 50 000 personnes qui sont passées sur le village de Lot. C'était pas de trop d'avoir cette immense grange parce que bah, finalement elle est bien employée et il y en a partout. Alors ouais. Évidemment, comme chez Bassine Non Merci, ils sont extrêmement bien organisés. Là, on est devant un tableau Velleda avec qu'est-ce qui va où. Parce qu'on peut pas bainer les trucs comme ça, sinon c'est vite le foutoir.
Ouais, tout à fait. Pendant 2 jours, ça va turbiner pour rediriger tout le matériel vers les différents propriétaires ou locataires. Voilà. Ce qui est aussi très chouette avec cette expérience, c'est que c'est comment, avec les envies de certaines, on va pouvoir imaginer une suite. On ne sait pas encore la définir aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à donner une vie quotidienne à cette ferme qui dépasse le petit projet maraîchage qu'on porte avec le café, mais dans lequel pourront s'impliquer d'autres personnes, d'autres projets. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui à imaginer.
Pour clore, question que j'ai aussi posée à Sylvain et ses adjointes, l'actuelle équipe municipale de Mel, il devait peut-être y avoir quelques craintes chez les concitoyens et concitoyennes. Toi qui es du coin, tu penses que ça a été vécu comment par les habitants ici, ce village de Lot ?
On va faire le point un petit peu de cette expérience-là dans les jours qui viennent. Je fréquente la ferme que depuis 1 an et demi et je ne croise pas forcément tout le monde. Ah, tiens, quand on parle du maire, le voilà arrivé sur sa bicyclette. Oui, il y a de la méfiance, comme partout, et que souvent l'ignorance, la crainte, en fait, elles ont tendance à très vite se diffuser. Il y a eu un climat de méfiance difficile à désamorcer avant le village, or qu'on a essayé de le construire dans un esprit d'ouverture et de découverte. C'est un peu dommage pour finalement les personnes qui ne sont pas passées, mais...
Je me suis laissé dire que des gens qui vivent ici, qui étaient un peu inquiets, qui sont venus voir, sont partis rassurés.
Pour ceux qui sont venus voir, oui. Oui, alors ce qui a été très chouette, notamment parce que j'ai animé des visites de ferme avec Floriane et Pierre, du coup, sur des visites qui ont été un vrai succès. Sur 3 visites, on a eu 35, 80 et 120 personnes à chacune. En fait, on avait un vrai mélange de populations, des gens qui venaient directement de Saint-Martin-les-Mel, des gens qui étaient du Mélois proche et des gens qui étaient venus pour l'événement. Et ce mélange-là était hyper chouette. Et en tout cas, de toutes les personnes qu'on connaît comme locaux, qu'on a pu croiser sur l'événement, dégager une vraie satisfaction de l'événement.
Mathieu, merci beaucoup pour cette visite express. Cet endroit tel que je le vois aujourd'hui, il faut bien que je le regarde parce que si je repasse peut-être même dans 1 an, il n'aura peut-être plus tout à fait la même tête.
Il y a quand même des choses qui ne vont pas bouger. Par contre, on espère un beau dynamisme pour ce lieu.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette balade sur la ferme de la Génellerie de Saint-Martin-les-Mels, le village qui a eu le courage politique d'accueillir le village de Lot de juillet 2024 et dont on n'a pas fini de vous parler dans cette émission. Au prochain épisode, on évoquera les diverses tribus et communautés qui ont vécu et lutté ensemble lors du village, tant ce mouvement rassemble de gens différents. Mais vous verrez que loin de décapiter les anti-bassines, la féroce répression policière de la fameuse manif de Sainte-Soline II a au contraire donné envie de rencontre et de cohésion aux divers militantes et militants. Et c'est notamment ce qui fait la force du village de Lot, dont les ambitions et l'esprit accompagnent désormais ces luttes, même si les chapiteaux du village ont été repliés depuis longtemps. Vous pouvez réécouter ces reportages sur notre site, Polymix et lavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très prochainement sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, no basaran.